R22, tout mon R22, antenne, tout mon Radio Brouhaha.
Merci Jean-Max. Donc on se retrouve pour la troisième émission de Radio Brouhaha. Ce soir, c'est la littérature plus que vivante, c'est la littérature survivante et hyper vivante avec Laure Limongi, Dora Jahn et pour le collectif RERQ, Claire Finch et Camille Cornu.
Billy the Kid, I back anything you say. Billy the Kid, in spite of your death notice. Billy the Kid, I love you. I love you. Billy the Kid, in spite of your death notice. And there was a desert in the mouth of the river. There is honey in the groin, Billy. Billy the Kid, I love you.
I love you.
Billy the Kid, I love you.
Billy the Kid, I love you.
I love you.
On commence avec Laure Limongi, écrivaine, qui vient de faire paraître « On ne peut pas tenir la mer entre ses mains » chez Grasset. Je suppose que tu as reconnu, Laure, ce morceau.
Bien sûr.
Tu peux nous dire ce que c'est?
C'est un morceau qui est tiré d'un poème très connu de Jack Spicer, « Billy the Kid
».
Dont je cite un petit extrait dans le livre « Nothing can kill anybody, not a poem or fat penis
».
Et qui a été repris donc par Rodolphe Burger du temps de Catonoma. D'ailleurs, ça c'était une autre version, mais que j'écoute depuis très longtemps, depuis Catonoma.
Ouais. Et alors, j'ai eu l'impression que dans ce livre, tu faisais de temps en temps un renvoi à ces grands irréguliers de la langue que tu apprécies particulièrement. Il y a pas mal de petits inserts, de petites citations, mais de manière très parcellaire, très fragmentaire, comme si tu voulais, dans ce livre qui est un tournant vers le roman, d'une certaine manière, vers le continu et vers une moins grande polyphonie, faire quand même signe vers ceux que tu accompagnes depuis des années. Qui t'accompagne aussi?
Oui, je pense que c'est de cet ordre-là, et de toute façon, c'est quasiment impossible pour moi de faire autrement. Enfin, c'est la langue, le réel sont nourris aussi de ces personnalités-là. C'est toujours une sorte de tournoiement entre l'écriture, la lecture, et c'est une sorte de fond permanent.
Et donc, tu peux nous expliquer ce passage au roman, parce que beaucoup de gens te connaissent ici. Fait partie de cette génération qui a été marquée plutôt, d'ailleurs assez absurde, de manière absurde pour toi, poésie ou littérature expérimentale, ce que tu n'as pas forcément fait d'ailleurs par ailleurs, mais celui-ci est quand même un passage au continu d'une certaine manière.
Alors après, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec les catégories et le fait d'être enfermée dans des cases. Enfin, je pense que ça se voit un peu. Et j'ai jamais considéré que mon travail appartenait à un champ ou à un autre, même si effectivement j'étais pas dans une forme institutionnalisée romanesque. Là, c'est tout simplement l'histoire. Chaque fois que je commence un nouveau projet qui finit parfois par devenir un livre, c'est quelque chose qui émerge. Et quelle forme on trouve pour cette histoire-là, cette émergence, cette forme, comment ça va s'agencer. Il se trouve que par le passé, ça a été à travers des formes plus discontinues, certes. Peut-être aussi lié à je répondais un peu comme ça à ta première question quand tu parlais des citations. C'est aussi quelque chose quasiment très organique. Peut-être que j'étais plus organiquement dans le discontinu à ce moment-là de ma vie, et que maintenant il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose de, je sais pas, de plus lié qui se passe. Mais avant toute chose, je pense que c'est surtout lié à l'histoire. Cette histoire-là, c'est poser la question, évidemment, hein, de faire intervenir plein de choses, mais j'avais vraiment envie de quelque chose de l'ordre un peu du plain text steinien, voilà, quelque chose de beaucoup plus simple, même s'il y a évidemment une structure temporelle qui est assez complexe, pleine d'analepse et de proleps, enfin, c'est pas si linéaire que ça.
Non, de temps en temps, il faut qu'on revienne en arrière en se disant, voilà. Est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai compris ? Alors, c'est pas un défaut du livre, je le dirais, mais il faut dire que c'est lié à cette histoire qui est celle d'un secret aussi. Hein.
Voilà, il y a un secret qui est dévoilé. Donc voilà, mais je pense que c'est vraiment l'histoire qui a créé cette forme de continuité un peu nouvelle pour moi. Alors je rassure mes amis poètes présents dans la salle, je ne vais pas forcément ne faire plus que du roman. Et surtout, je dois quand même le dire, peut-être que j'anticipe un peu sur une autre question, et je m'excuse si c'est le cas, mais qu'en fait, ce livre fait partie d'un diptyque, qui est quelque chose qui me... Enfin, j'ai déjà fait avant, enfin bref, c'est quelque chose d'un peu récurrent. J'ai écrit un autre livre en même temps, qui est pour le coup plus proche de mon livre précédent, Anomalie des zones profondes du cerveau, c'est-à-dire plus essai, fiction documentaire, pour le coup très discontinu et pour le coup très polyphonique. Et donc ce roman un peu plus classique fait partie d'un dispositif binaire et répond un petit peu à cet autre livre qui pose des questions de l'ordre, qu'est-ce que c'est que l'identité du personnage, qu'est-ce que c'est que l'insularité. Donc c'est quand même pris dans un dispositif.
Oui, et ce dispositif dans celui-ci, dont je dis qu'il est continu, mais c'est aussi un dispositif par vague, j'ai l'impression. On a l'impression, en tout cas en tant que lecteur, qu'on avance dans une vague, on va jusqu'à un certain point, on commence à voir le bout peut-être, puis on revient en arrière, puis on doit repartir. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu? Alors j'y pense avec l'insularité et le fait qu'on traverse de la Corse à la France aussi.
Oui, il y a quelque chose. Puis, moi, je pense que c'est aussi lié beaucoup à la notion du temps. Enfin, moi, j'ai un peu des problèmes, comme beaucoup, avec ça. Et je trouve que c'est totalement cyclique et justement totalement pas linéaire. Et je pense que trouver la manière dont raconter le secret de famille sans en faire une espèce de, je sais pas, de quête, de choses un peu instrumentalisées, de bonus narratif qu'on mettrait quelque part, impliquer une structure comme ça qui peut être parfois justement un peu déceptive aussi parce que voilà. Et puis c'était aussi le remettre dans sa vérité humaine. Non, qu'est-ce que c'est? C'est un secret de famille un peu destructeur et qui finalement est humain, trop humain, quoi. Et n'est que voilà, ce n'était donc que cela. C'était aussi une manière de le présenter comme ça.
Alors pour faire le lien avec le festival et le thème de la littérature vivante, j'aimerais bien que tu nous lises un extrait qu'on commentera par la suite.
C'est la première fois que je le lis, mais ça va être très bien, justement, pour Extra. À haute voix, je veux dire. La semaine...
Pardon, ouais, est-ce qu'on le contextualise un peu?
Je me posais la question.
Ouais, ouais. Peut-être on le contextualise, mais tu veux
alors,
le faire?
Alors, ouais, c'est... Donc, il y a une héroïne qui s'appelle Yuma Benedetti, qui est donc dans une famille, on va dire, un petit peu compliquée, avec une grand-mère pas très sympathique et même un petit peu maltraitante. Et là, elle est adolescente... Elle vient, on lui a fait une chambre, donc elle a enfin un espace à elle, voilà, et ça se passe pas forcément très bien, le fait qu'elle ait enfin son espace à elle. La semaine suivante, elle refuse une soirée télé avec May pour lire dans sa chambre. Sa chambre, elle ne s'en lasse pas, elle ne se lasse pas de prononcer ces mots. May insiste. Yuma décline poliment, elle a un livre à finir, elle ment en ajoutant que c'est pour l'école, argument imparable. C'est un vendredi soir. Alice et Laoui, les parents, ne sont pas là. Yuma s'installe confortablement avec Salambo dans son royaume. Quelque chose comme le paradis. Au bout d'un quart d'heure, plus d'électricité. Elle avait entendu May ouvrir la porte de son appartement, les trois verrous et le poignard à retirer du chambranle. Forcément, ça fait du bruit. Elle comprend alors qu'il ne s'agit pas d'une coupure générale. Le tableau électrique se trouve en bas de l'escalier. May est allée retirer les fusibles de sa chambre. Avec un sang-froid dont elle ne se savait pas capable, elle se lève, saisit à tâtons une bougie, ferme le petit verrou et s'installe par terre, derrière la porte, jambes arc-boutées contre le mur qui lui fait face. Elle entend May approcher, essayer d'ouvrir la porte, constater qu'elle résiste. May pousse, ça ne marche pas. Elle insulte Yuma, lui intime d'ouvrir. Yuma continue sa lecture, en silence, à la lumière de la bougie. On ferma les portes, les barbares presque aussitôt parurent.
tu vas ouvrir, petite salope, petite pute, mais ouvre cette porte, connasse, mais ouvre. T'es bien une pute comme ta mère, mais ouvre, ouvre cette porte. Le ton monte. Plusieurs s'approchèrent avec des palmes à la main. Ils furent repoussés à coups de flèche, tant la terreur était grande. Yuma applique son regard sur les lignes, se love dans chaque caractère de Flaubert. À présent, Mei essaye de défoncer la porte. Mais Carthage était défendue dans toute la largeur de l'isthme. D'abord par un fossé, ensuite par un rempart de gazon, et enfin par un mur haut de 30 coudées, en pierre de taille et à double étage. Elle se jette dessus, envoie de grands coups d'épaule en poursuivant ses insultes. Elle a beau beugler, se casser la voix, ses cris s'effacent derrière les cadences du roman. Il contenait des écuries pour 300 éléphants, avec des magasins pour leurs carapaçons, leurs entraves et leur nourriture, puis d'autres écuries pour 4000 chevaux, avec les provisions d'orge et les harnachements et des casernes pour 20 000 soldats avec les armures et tout le matériel de guerre. Contre la porte, le dos de Yuma encaisse les soubresauts de la furie de sa grand-mère. La flamme vacille mais ne s'éteint pas. Des tours s'élevaient sur le second étage, toutes garnies de créneaux et qui portaient en dehors des boucliers de bronze suspendus à des crampons. La grand-mère, épuisée, finit par se lasser. Yuma ne peut pas s'empêcher de sourire. L'antidote de l'écriture est plus puissant que la rage de Mei.
Alors, si j'ai voulu ou si j'ai pensé que ça serait bien de lire ce passage, c'est que il peut faire des échos entre vos deux livres et même avec ce que vont faire le collectif RERQ tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est le moment aussi où ce personnage, c'est le premier moment d'émancipation en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois un moment de protection. La littérature et la lecture sont des moments de protection contre la violence inouïe de cette grand-mère qui est épouvantable, abominable. Et c'est aussi le moment un peu que j'ai vécu comme un moment de bascule dans le roman.
Oui, complètement. Oui. Parce que c'est vraiment bon, déjà il y a, donc vous avez reconnu qu'il y a des passages évidemment de Flaubert à l'intérieur, et c'est aussi le moment où le personnage s'empare vraiment quasiment physiquement de la littérature.
Oui. Alors on sait bien qu'il y a une large part autobiographique hein, dans ce livre. Je pense pas que tu le caches.
Non. Voilà. C'est un peu genre.
Voilà. Ouais. Et donc j'aimerais qu'on revienne aussi sur ton parcours, puisque c'est pas le moment rentrée littéraire ici, mais un moment de discussion. Et je t'ai invité aussi parce que tu me sembles être parmi d'autres. Hein, tu es pas la seule. C'est pas l'incarnation absolue, mais d'une posture peut-être un peu nouvelle dans le champ littéraire. En tout cas depuis une vingtaine d'années, qui est à la fois éditrice, productrice, enseignante, écrivaine, et à parts égales, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que moi, je t'avais rencontré la première fois que j'ai entendu parler de toi et connu ton travail, c'était comme éditrice. J'aimerais bien que tu nous parles de ce parcours qui t'amène à l'édition, et si le désir d'écrire et d'éditer est contemporain, si la fabrique des livres, c'est à la fois la fabrique des livres des autres et des siens.
Ah oui, pour moi, ça a toujours été totalement contemporain. Ça étonne parfois, moins maintenant, mais à l'époque, on me posait beaucoup la question de justement, est-ce qu'il y a une hiérarchie ? Est-ce que c'est pas dur d'écrire en éditant ? Alors que pour moi, ça c'est vraiment le même geste. C'est vraiment l'envie de faire advenir des formes, que ce soit en tant qu'éditrice ou que ce soit en tant qu'écrivain. Finalement, c'est voilà. Évidemment, en tant qu'éditeur, on accompagne, mais c'est vraiment lié à un désir de lancer des choses dans le monde. Et je trouve que c'est l'écriture, c'est quand même aussi quelque chose de très solitaire. Et travailler à la fois comme éditrice, comme enseignante, c'est aussi une manière de faire partie de communauté, de faire advenir d'autres choses, de travailler en collaboration aussi. Donc pour moi, ça a toujours été très simple et très contemporain. Et j'ai jamais eu d'effet de parasitage qu'on pourrait penser entre l'un et l'autre, bien au contraire.
Là, ça fait quelques années que tu n'es plus officiellement éditrice, c'est-à-dire directrice d'une collection ou d'une maison d'édition, puisque tu as aussi dirigé... L'Aurélie était une collection plutôt qu'une maison d'édition, mais enfin, avait une autonomie assez grande, et puis publiait beaucoup pour une collection.
Huit livres par an.
Ça fait quand même des catalogues qui sont déjà comme ceux d'une petite maison d'édition. Est-ce que la bascule vers l'enseignement s'est faite au même moment que ça s'arrêtait? Et est-ce que tu vois des relations entre l'édition et l'enseignement?
Alors oui, ça s'est fait en même temps. Après, je renonce pas totalement à l'édition. C'est vrai que vous connaissez le problème des journées qui ont 24 heures, ça c'est déjà un problème en soi. Mais c'est aussi, comme tu le sais, parce que j'ai lancé je fais aussi un doctorat, donc je me suis dit que c'était pas une super bonne idée de reprendre une aventure éditoriale
faisant trop de choses, donc on verra pour la suite, mais c'est un désir qui est encore très vivace. Et ensuite, oui, il y a évidemment des liens, moi, que je fais. Pour moi, mon travail d'enseignement, et c'est pour ça que je l'aime autant, permet de faire se rejoindre à la fois mon travail d'écrivain, d'écrivaine, et mon travail d'éditrice.
Oui, parce que je vois que très souvent, d'ailleurs, c'est une des particularités peut-être de la formation que tu diriges au Havre, très souvent, tu fais des projets collectifs avec tes étudiants qui finissent par des objets édités, qui sont parfois des sites, des blogs, des, oui. Généralement, c'est des éditions un peu plus low-fi, j'ai envie de dire, mais enfin, qui sont quand même des travaux d'édition avec tes étudiants.
Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que moi, dans l'accompagnement que j'apporte aux étudiants, c'est très proche du travail que je fais en tant qu'éditrice, avec une sorte de luxe, c'est 2 ans. Quand même, donc on a rarement l'occasion de passer 2 ans avec un auteur, donc une autrice. Et le fait d'être évidemment plus en amont du geste, donc il faut avoir, à mon sens, totalement conscience du fait que, voilà, on n'est ni dans une collection, il y a des choses qu'on ne fiche pas volontairement. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un stade d'émergence où on va accompagner, donner des pistes et laisser ouvert beaucoup de champs qu'on aurait tendance peut-être à plus fermer dans un cadre éditorial. Mais en revanche, au niveau de ce qui se passe entre un auteur et un éditeur, je retrouve vraiment des choses très proches. Et c'est, enfin, tu sais, parce que tu fais la même chose, et je trouve que c'est, on a beaucoup de chance, voilà, d'être à ce moment-là de l'émergence de ces masters et de vivre ces expériences-là avec ces étudiants.
Alors, tu as dit déjà une reprise que tu t'étais lancé dans un doctorat. Je me posais la question aussi en relisant ta biblio, que tu as déjà publié des essais comme c'est Les Indociles, hein, ouais, c'est ça, ouais. Par exemple, qui était sous la forme d'un essai, qui était déjà une recherche. Qu'est-ce qui diffère et qu'est-ce qui fait aller vers un doctorat plutôt qu'un essai comme tu l'as déjà fait
Alors, je pense, comme dirait ma nièce, la plus jeune, Tata, elle aime bien le travail. Non, je pense que j'avais aussi envie de... Mon essai est très libre. Et voilà, et d'être... À nouveau, il y a encore cette question du dialogue. Hein, d'être en dialogue avec des chercheurs et donc d'expérimenter quelque chose de différent. Aussi, comme tu le sais, ce sont des formats de thèse très nouveaux. Donc voilà, aussi le désir de voir un peu comment ça se passe, comment tout ça va s'instituer. Et peut-être de me remettre moi-même dans un rapport à la recherche et à l'institution, comme le sont mes étudiants en master. Enfin voilà, de me reconfronter moi aussi à ce monde-là pour voir comment je m'en sors, qu'est-ce que ça peut leur apporter aussi. Voilà.
Et donc ça porte sur quoi et c'est quoi ?
Alors c'est donc un doctorat de pratique et théorie de la création artistique et littéraire. Donc il faut prendre son souffle avant de prononcer la phrase. Donc c'est-à-dire que c'est un doctorat de recherche-création, comme on le dit plus au Québec. Avec une partie donc, de travail de création et une partie de recherche. Donc le travail de création, ça sera ce livre-là, plus l'autre partie du diptyque que j'ai évoqué. Et le travail de recherche qui s'appelle « Je est un cœur » porte sur la notion d'identité, donc identité mouvante, notamment à travers les personnages narratifs, à travers 2 procédés littéraires qui sont la polyphonie et la transfictionnalité. Et donc dans mon corpus principal, il y a des auteurs comme Volodine, que tu connais bien, Leslie Kaplan ou Daniel Mémoire. Voilà, donc essayer de voir comment ça fonctionne chez eux. Et à travers, je pense, quelque chose qui sera plus de l'ordre du manifeste, comment ça fonctionne aussi chez moi. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que ces doctorats sont à la fois totalement passionnants et posent quand même pas mal de questions, justement, de format, de positionnement. Et c'est, je pense que c'est aussi ça qui m'intéresse.
Et est-ce que pour aller jusqu'au bout, est-ce que cette envie, t'es pas la seule, hein, y a d'autres, au moins une autre personne dans la salle,
oui,
qui fait ça. Et puis,
plus, je pense.
Puis ouais. J'étais dans le jury de thèse dernièrement de Camille de Toledo aussi. Est-ce qu'il y a aussi la sensation que l'université ou le monde académique peut s'ouvrir à la place des écrivains et que c'est aussi une volonté de s'inscrire dans une profession à l'avenir pour toi ou pas ?
Ah oui, bien sûr. Et puis j'espère que ça sera le cas. Enfin, dans d'autres pays, ça l'est déjà. Hein. Quand on voit Québec, États-Unis, pour citer ceux qu'on connaît le plus évidemment dans ce domaine, moi je pense, enfin tu seras mieux passé pour moi pour le dire, mais qu'effectivement on est peut-être arrivé au bout d'un certain système, en tout cas dans les études de lettres, et qu'il y a tout à gagner à, sans forcément être dans le cadre d'un master de création littéraire, d'ailleurs, c'est-à-dire s'adresser à des gens qui ont vraiment envie de faire métier de cette création. J'ai parlé à l'occasion de certains colloques avec des chercheurs qui me disaient à quel point pour eux, même dans leur recherche, même si elles portent sur la littérature du 18e, voilà, c'est intéressant d'avoir cette ouverture sur la création parce que ça permet de penser le texte autrement. Je pense que faire entrer le texte vivant au sein de l'université, c'est aujourd'hui absolument essentiel si on veut continuer à avoir des étudiants. Parce que c'est pas comme si les métiers qu'on peut avoir après faisaient rêver à un tel point que vraiment... Voilà. Donc c'est essentiel qu'il y ait de la vie qui rentre à l'université.
Tu disais, on est peut-être arrivé au bout d'un cycle dans les études de lettres. Est-ce qu'on n'est pas non plus arrivé peut-être, non pas à la fin d'un cycle, mais à l'épuisement d'un certain écosystème littéraire qui fonctionnait beaucoup, notamment sur la sociabilité et la création, sur le modèle des revues. Et j'ai pas de statistiques, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu moins de revues et un peu moins de visibilité pour les revues. Est-ce que c'est pas d'autres espaces de sociabilité qui se créent pour permettre des lectures croisées et des écritures croisées?
Ouais, je pense que tu as totalement raison. Effectivement, on voit, voilà, les revues sont évidemment pour des raisons économiques en grande partie nettement moins présentes, et on voit, on le voit avec l'expérience qu'on a avec après quelques années de master, que clairement ça recrée des communautés de travail, des lectures croisées, ce que tu viens de dire. Qui se poursuivent après le diplôme. Ouais. Donc, les gens continuent à travailler ensemble, font des communautés, font des expériences littéraires qui apparaissent totalement. Ouais.
Et d'ailleurs, ça me fait penser, mais elle n'est pas autour de la table, à Claire et au collectif RERQ. Je m'aperçois qu'il y a pas mal de collectifs qui se montent aujourd'hui comme collectifs, alors que encore dans les années 90, où moi j'avais créé une revue, un collectif se crée en fondant une revue, forcément. Alors que les collectifs, c'était pas à partir d'une revue qu'un collectif existait d'une certaine manière. Alors que je vois pas mal de collectifs aujourd'hui, je sais pas si Claire tu veux intervenir là-dessus, si t'as un micro à proximité, mais pas mal de collectifs qui se fondent sur d'autres espaces, avec d'autres espaces qui sont plus peut-être des espaces performatifs, ce qui fera le lien aussi avec la question suivante à Laure.
Mais je pense que c'est toujours une question de qu'est-ce qui est le plus pratique en tant que ressources qui sont ouvertes à nous. Donc, pour nous, on s'est retrouvé qu'au moment où j'étais 6, au lieu d'une seule, soudain, il y avait des scènes qui étaient ouvertes à nous, il y avait des revues qui étaient ouvertes à nous, il y avait des bars, des festivals qui étaient plus faciles à accéder. Même chose quand on est écrivain en général, c'est qu'on est payé pour nos performances dans les centres d'art et pas nécessairement pour nos travaux d'édition. Mais moi, je fais des trucs très expérimentaux. Je ne sais pas si Camille, tu veux ajouter...
Peut-être.
Non, c'est bon.
Mais c'est-à-dire que je me demande s'il n'y a pas une question aussi de monter ces structures, parce que c'est là, je pense que ça change beaucoup de temps. Mais à l'instant, souvent, l'université, c'est un des sites dans lesquels on trouve des ressources pour continuer notre travail de création. Et pour nous aussi, qui étaient dans le master de Paris 8 et qui sont écrivains, écrivaines et aussi chercheurs, chercheuses, le collectif était le format de pouvoir trouver une autre façon de faire justement le travail création que tu es en train de faire.
Et justement, sur cette question de la performance, tu fais aussi des lectures performées. Est-ce que quelle place ça a aussi dans ton... On a entendu hier Emmanuel Pierre qui parlait de ce modèle très particulier qui lui appartient en propre. Mais est-ce qu'il y en a un pour toi aussi? Je sais que tu n'archives pratiquement pas, on ne les voit pas. Donc qu'est-ce que ça représente, la performance, pour toi dans le travail créatif?
Pour moi, c'est vraiment complémentaire du texte. Voilà, c'est complémentaire. Et c'est vrai que ça fluctue selon les moments. Il y a des moments où j'en fais beaucoup. J'ai vraiment ce besoin de... Voilà. Et puis des moments où il y en a moins. Je parlais vraiment de la fonction, pour moi, organique de l'écriture. Et la performance, c'est vraiment une façon de le dire et de l'incarner. J'aime aussi, justement, ce côté... ce rapport très direct et d'un instant qui est partagé avec des gens qui sont là. Donc pour moi, la performance, c'est pour ça que j'ai du mal aussi avec l'archive et tout ça, c'est que il faut que ça soit évanescent, il faut que ça soit créé à cet instant-là. Alors je pense qu'il y a aussi mon passé de musicienne qui fait que j'aime vraiment particulièrement ça aussi, enfin ce moment de la scène, et expérimenter des choses, et voilà, faire des choses qui peuvent totalement changer. Mais comme je disais, c'est vrai que ça dépend totalement des phases de travail, des phases où je vais être beaucoup plus du côté de l'écrit, beaucoup plus du côté de la performance, où ça va être plus de la conférence performée, ou alors je vais tenter des choses un peu plus physiques. J'aime beaucoup tout ce qu'a écrit Bernard Haitink sur cette question, parce que c'est vrai que à chaque fois, et on en parlait tout à l'heure avec Christophe Anna, donc dans son dispositif d'évaluation, ce qui est intéressant dans la performance, et puis d'ailleurs Elsa Escaf en parlait hier pendant sa performance, c'est vraiment être sur le fil. C'est que quelque part il y a quand même une forme de mise en danger, de voilà, très directe, où on peut, voilà, c'est ce que Haitink appelle le droit au couac, quoi. On peut vraiment totalement se laminer la tête, voilà, en direct. Et c'est bien aussi de mettre une forme, et une forme qui passe par les mots, une forme d'écriture, de la mettre à cette épreuve là et de voir ce que ça donne.
Et tu prépares quelque chose avec On ne peut pas tenir la main entre ses mains, la mer entre ses mains, pardon.
Ouais, je vais faire à Actoral une conférence performée. Je crois que c'est le 6 octobre, si je ne m'abuse, c'est un dimanche, qui sera un dialogue entre le roman et l'autre partie, donc l'autre partie du diptyque, ouais. Sous forme de conférence performée avec quelques images. Voilà.
D'accord. Et d'ailleurs, j'ai vu que pour le précédent, tu avais vraiment accompagné la publication aussi de je ne sais pas si c'est exactement contemporain de la publication, mais d'un certain nombre de fragments qui venaient poursuivre le livre. Et je me suis aperçu que tu faisais partie de ces auteurs, il n'y en a pas, finalement pas tellement, qui ont leur journal, qui est en ligne en permanence. Tu peux aussi parler de ça, de cette publication, ce régime de publication complètement généralisé, puisque, oui. Alors j'imagine qu'il y a des choses qui ne sortent pas non plus, mais enfin bon, François Bon le dit tout le temps, par exemple, François Bon il dit de toute façon je publie tout le temps, donc il n'utilise même plus Word, il n'utilise que des logiciels de mise en ligne sur lesquels il écrit.
Ouais, c'est pour ça qu'on aime François, mais moi j'avoue que je ne fais pas du tout la même... Non, en fait, y a ce blog, je l'ai pas mal nourri justement au moment où les blogs sont un peu nés, donc si je me souviens bien, c'était peut-être, je crois que ça a dû commencer en 2004-2005. Donc entre 2004-2005 et 2010-2012, je dirais que j'avais quand même pas mal de rythme de publication parce que bon, j'aime bien les formes émergentes, les expérimenter, voilà. Après, là, je publie vraiment nettement moins. Je publie plutôt quand il y a des séquences qui me semblent intéressantes. Donc quand j'avais sorti Anomalie des zones profondes du cerveau, j'avais accompagné effectivement, comme tu disais, avec des étapes préparatoires, avec des fragments. Alors il y a aussi un dispositif en fait dans ce livre. Il y a un chalet de vacances et dans ce chalet, il y a une bibliothèque. Et j'avais fait en sorte que cette bibliothèque, vous savez, c'est le genre de bibliothèque des maisons de vacances où tout le monde oublie un truc, alors c'est un peu fait de briques et de brocs et tout ça. Et donc j'avais fait en sorte d'inviter des gens réels. Genre j'avais envoyé un mail qui s'appelait quelque chose comme « Est-ce que tu es libre pour les vacances d'août, enfin pour l'été 92 ou quelque chose comme ça ?» Et donc je les avais invités dans ce chalet fictif et dans cette histoire à oublier un livre. Et donc chacun m'avait envoyé des livres qu'ils avaient pu oublier. Et donc j'avais notamment publié certaines de ces réponses puisque les gens avaient vraiment joué le jeu et donc avaient fait quasiment un petit texte pour me raconter les vacances qu'ils avaient passées dans le chalet du roman. Donc voilà, c'était une manière aussi de recréer un dispositif qui existe à la fois dans le roman mais qui n'est pas forcément visible si on n'a pas accès à ça. Après, voilà, bon, comme je disais, je tiens un journal de création et un journal tout court. Je l'ai surtout la plus tenu depuis chez le doctorat pour essayer de me souvenir du moment que j'ai les idées, au moment où ça arrive. Mais je suis très très loin de le publier parce que, par contre, contrairement à François, moi je suis plutôt. Il y a vraiment des espaces qui ont besoin de temps, de mûrir avant d'apparaître.
Oui, peut-être sans du tout vous comparer, peut-être aussi ce que je sens que tu aimes depuis au moins que je te suis depuis le début des années 2000, disons. Je ne me souviens pas si tu étais dans le mouvement des revues sur Internet dans la fin des années 90, début 2000 ou pas. C'est-à-dire quand il y avait Inventer Invention, la revue Kawid, les trucs comme
non,
ça.
Pas trop.
Moi, j'ai vu ça apparaître effectivement avec les blogs. Toi, tu as beaucoup investi ça. Et dernièrement, tu as investi cette forme qui est la forme du hashtag aussi.
Ouais. Avec Twitter.
Tu peux en parler un petit peu.
Bah oui, parce qu'effectivement, je trouve que ces hashtags Twitter, c'est une sorte de forme fixe. Et donc j'ai essayé d'en faire des poèmes à partir de captures de hashtags d'un jour donné, de voir qu'est-ce que ça peut donner comme instantané d'époque. Alors c'est en forme de 8 hashtags, donc 8 vers, voilà.
Que tu prends sur les hashtags qui remontent le plus ou
voilà, c'est ça. Ouais. Je fais une sorte de capture, ce qui fait une espèce d'instantané finalement d'époque, hein, puisque forcément dans ces hashtags on retrouve et les politiques et les drames et plein de choses, puis des fois des choses justement totalement absurdes. Alors j'essaie de prendre le plus de choses littéraires aussi sur lesquelles je peux tomber ou de les détourner. Il y a des jeux sur les motifs, donc voilà, c'est vraiment une manière d'essayer de faire de la poésie avec une matière qui a priori ne le semblerait pas trop.
Ouais, et du coup, il y a une forme de créativité, même si je n'ai pas envie de trop d'employer ce mot, mais des régimes de publication ou d'investissement, d'expérimentation des régimes de publication. C'est ce que je vois aussi dans ton parcours. C'est-à-dire que tu vois les régimes de publication s'étendre et puis se diversifier. Et chaque fois qu'il y en a un qui émerge, tu vois ce que la littérature peut investir dedans ou quelque chose de cet ordre-là ou le langage.
Oui, vraiment du détournement. Essayer de remettre quelque chose, s'approprier ces outils-là et d'essayer de refaire quelque chose un petit peu, de les détourner un petit peu de la voie qui sont censés prendre. Après, à partir de ces hashtags, là, je suis en train d'y travailler, mais je ne sais pas ce que ça va donner. J'essaye de faire, d'en prendre certains et de refaire un texte, à partir de ce hashtag, qui est plutôt une sorte de petite prose. Mmh. Voilà, voir si, voir ce que ça va donner.
Et alors deux peut-être une question pour finir. Une question un peu provocatrice, mais enfin à peine provocatrice d'ailleurs. Mais donc tu publies chez Grasset, une maison beaucoup plus mainstream que ce que tu as fait jusqu'à maintenant. C'est avec j'ai regardé un peu des dispositifs de rentrée littéraire aussi plus mainstream, des formats vidéo
où
il faut vraiment raconter
tout
ce qu'on dit, etc. Est-ce que ça provoque un peu de schizophrénie chez toi ou pas du tout?
Bah, en fait, moi, je travaille avec Juliette Just chez Grasset, voilà, qui est une éditrice que j'ai rencontrée et avec qui je fais vraiment le travail que je veux faire. Il y a aucune concession formelle dans mon travail. Il se trouve que c'est Grasset, bon, c'est comme ça. Mais sinon, pour moi, ça ne change pas. Après, je précise que la maison Grasset, alors moi, comme tu l'as dit, hein, je suis éditrice et je me considère vraiment comme une ouvrière du texte, hein, à tous les niveaux, que ce soit en tant qu'éditrice ou en tant qu'écrivain. Et Grasset, alors on n'a pas cette image-là quand on ne connaît pas, moi qui ai la chance d'aller, j'ai fait deux livres, c'est vraiment une petite boîte un peu à l'ancienne avec des vrais gens de l'écrit qui travaillent dedans, des vrais gens qui composent, des vrais gens qui corrigent, et j'adore les gens qui rangent les livres aussi dans le magasin, ce qu'on appelle le magasin. Enfin, c'est une petite équipe en fait, vraiment à l'ancienne de l'édition. Et donc finalement, c'est pas si éloigné de ce que moi je fais quand je suis aussi éditrice et de ce que j'aime. Après, évidemment, il y a tout le côté Galy Grasseuil, voilà, c'est autre chose. Mais finalement, pourquoi pas, enfin, et puis c'est très bien. Et je suis extrêmement bien traitée là-bas, donc je suis très heureuse d'y être.
Et donc, dernière question qui est plutôt sur l'édition encore. Comme éditrice, tu as été chez Loirly et précédemment chez Aldante aussi. Un peu comme Jean-Hubert Gaillot et Sylvie Martini, c'est-à-dire avec un goût pour faire redécouvrir des œuvres qui sont bêtement tombées dans l'oubli. Je pense à Hélène Besset, par exemple, que tu as fait redécouvrir d'une certaine manière, ou des auteurs, je ne sais pas, comme Raymond Federman, que personne ne connaissait en France. Si aujourd'hui tu avais à faire redécouvrir des auteurs, il y a des choses comme ça que tu vois et tu te dis c'est quand même bête qu'on ait fait disparaître ces œuvres parce qu'elles ne sont plus publiées, plus éditées, ou alors des auteurs étrangers que tu aurais envie de faire redécouvrir.
Alors déjà, je commence par dire qu'effectivement, Tristram, Jean-Hubert Gaillot et Sylvie Martini font partie vraiment des j'arrive même pas à dire l'intensité de l'admiration que j'ai pour eux, parce qu'ils ont un parcours, enfin, ils sont partis à 17 ans de chez eux pour monter cette boîte, et depuis, ils font, ça c'est juste magnifique, quoi. Donc, achetez tout Tristram et puis suivez, et c'est une formidable aventure. Ensuite il y aurait plein de choses, mais là je pense à des textes qui du coup sont déjà ressortis. Mais je sais que par exemple à un moment il y a très longtemps j'avais entendu parler du livre dans une boîte, d'un auteur britannique un peu fou, et j'avais pas trouvé, et puis quelques années plus tard j'ai découvert que Bran Stanley Johnson, donc B.S. Johnson, était publié en France par Kidam, donc j'en avais reparlé avec Pascal Arnaud après en me disant ah mais c'est toi, tu l'as fait le livre dans la boîte, c'est génial, comme ça j'ai pas à le faire. mais voilà, donc la chance c'est qu'on a aussi beaucoup ce genre de discussion avec Benoît Viro de chez Attila, qui, je sais pas s'il le fait encore, mais j'avais été jury du prix Nocturne, qui est un prix où on redécouvre à chaque fois certains livres, et voilà. Donc oui, là je pense que dans 10 minutes j'aurai plein d'idées.
Oui, non, mais c'était pas un piège.
Il y a effectivement, moi je pense que si on fouille un peu, il y a effectivement énormément d'auteurs à faire redécouvrir, mais c'est d'ailleurs ce qui est un petit peu excitant. Et ce qui est très bien aussi, c'est de se rendre compte que pour B7, ça marche bien. Justement, maintenant c'est repris par Benoît Viro chez Attila. Et je suis très heureuse de voir que c'est une autrice qui a redécouvert ses lecteurs. J'inverse un peu le mouvement, mais c'est un peu comme ça.
Ouais. Merci Laure, en tout cas, je le dis très sincèrement, j'ai beaucoup aimé On ne peut pas tenir la mer entre ses mains. C'est un livre assez effrayant par endroits, enfin sur la situation qui est décrite, la situation familiale, très bouleversant, très fort, et puis qui aussi fait comprendre pas mal de choses sur peut-être cette... la personne que tu es aussi et l'auteur que tu es, quoi. Merci.
Merci beaucoup.
Je crois qu'on arrive à l'instant Q, hein, c'est ça?
Oui. On arrive à le moment R-E-R-Q. R-E-R-Q, because sex and sexuality is another form of publication. Et aujourd'hui, je suis là avec notre membre Camille Cornu, qui écrit aussi des romans et des nouvelles. Récemment habilité sociale chez Flammarion l'année dernière. Mais aujourd'hui, on va écouter une pièce sonore de Camille. Mais je vais donner un peu de contexte avant qu'on commence à faire ça. Donc déjà, Camille.
Oui.
C'est une pièce sonore que tu as fait récemment à Glasgow.
Pas vraiment. J'ai enregistré des passages à Glasgow parce que c'est là-bas que est mon amante. Mais j'ai fait le montage à Paris avec une artiste qui s'appelle Elisa Monteil, qui a un projet qui s'appelle Super Sexui, et c'est dans le cadre d'un projet qu'on fait avec RERQ pour une exposition qui s'appelle Des sexes et des femmes, sortir de l'hétérosexualité.
Et oui, et Super Sexui, alors c'est un projet qui essaie de oraliser, de mettre dans le format audio des pornographies écrites. Mais dans ce projet que tu as fait pour aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est encore une façon de parler de l'intimité littéraire, de comment est-ce qu'on peut produire un espace intime de la littérature avec la relation. Parce que là, tu es dans le lit avec ton amante et vous discutez. C'est un peu ça le contexte, oui?
Bah oui, c'est exactement ça. je pense que oui, c'est une façon de fixer les voix en fonction des espaces d'où elles sont produites. Et Laure parlait tout à l'heure du rapport organique à l'écriture, et c'est ça, je pense, de voir d'où proviennent les voix, et le fait de les enregistrer, c'est une façon d'être au plus près de ce que ça peut avoir d'intime, d'être dans cette voix qui provient d'un espace super intime. Et voilà, et du coup, l'enregistrement, Lionel disait tout à l'heure qu'il l'avait coupé le début parce que c'était pas assez audible, mais j'aimais bien aussi fixer.
C'est pas intelligible, effectivement. Donc, si j'ai 30 secondes, qu'on n'entend pas du tout. Ouais. Tu aimais bien ça aussi, mais il y en aura d'autres.
Oui, j'aimais bien
pas.
Fixer ces moments d'incertitude dans la voix parce que je trouve qu'au fait, ça a du sens aussi.
Ouais.
Voilà. Mais bon, c'est pas grave.
Mais pour toi, c'est-à-dire que c'est un sens parce que justement, ça montre que c'est dans un espace intime, que c'est un enregistrement qui était fait parce que tu m'as dit une fois que la montre ne voulait pas que tu prennes un enregistrement direct.
Voulait.
Bah oui, non, elle a consenti l'enregistrement, mais elle a dit on doit trouver une façon de le faire.
Elle m'a demandé de le faire en cachette. Oui,
voilà. Et donc, tu as trouvé un moment de confort qui était justement dans le lit, dans cet espace d'intimité littéraire où le texte qui est surgi était probablement différente de ce qui aurait été si tu as fait dans un autre espace. Ouais. Et pour ceux qui ne comprennent pas, il y a des parties en anglais et en français. Donc les parties qui sont en anglais, en gros, c'est un peu ton amante qui parle de son expérience d'arriver à une...
Mais ça, je le dis dans le texte, en fait.
Ah oui, donc bon. Donc il y a Camille au minimum qui va faire des parties à côté. Mais maintenant, peut-être on peut lancer la pièce.
Donc on lance la pièce, j'annonce qu'elle c'est une vraie pièce sonore, donc qui fait à peu près 4 minutes, et donc c'est un espace un petit peu immersif dans lequel on entre, qui est l'espace de la chambre, hein, très immersif.
Sortir. Sortie de secours. Sortir de scène. Sortir avec moi. Jade est dans sa première relation queer, et une semaine après notre rencontre, elle s'est déjà coupé les cheveux. Elle sent le vent sur son crâne et elle enlève ses bagues. Elle me regarde beaucoup. She can't believe it's true. Elle ne sait plus les règles. Elle avait un script prévu pour ses relations avec des hommes cis. Et maintenant, elle est perdue. Catapultée sur scène, sans aucun rôle à jouer. Elle dit que c'est dangereux, parce que cette fois, c'est vrai. Cette fois, elle ne joue plus. Et si son cœur se brise, les morceaux en seront acérés et tranchants.
I have never been with anybody... English isn't their first language.
Donc, elle a un peu peur, mais elle ne sait pas trop. Elle cherche des causes précises à toute cette étrangeté. Je parle une autre langue. J'essaie d'imiter son accent. On apprend, toutes les deux. Je répète les mots qu'elle dit, très lentement. Mais elle me dit d'accélérer. J'essaie de trouver une place à ma langue et une forme à mes lèvres. Je la laisse me guider. Je m'émerveille de certaines expressions et j'en veux toujours plus. Quand elle est fatiguée, elle décide de m'offrir un dictionnaire.
You said to me, but maybe you, maybe...
Et je lui prête des sextoys en échange.
That this was me just testing things out. That maybe it was like a game for me.
I don't know why I said that.
Well, I know why.
Why?
Insecurities. Oh. I mean, this. You yeah, can't just
because
trust
you don't
someone through
it. I don't mean that.
You don't mean that?
I don't think so. I don't know why I said that. I was just playing the game of a queer person who meets someone with a heterosexual background, and I was just playing this role, I think.
On n'en finit pas de sortir et de rentrer, de se tordre, de se mordre et de se cogner. Ses bras autour de mes cuisses et sa nuque dans ma main. On slalome entre des langues qui nous poursuivent. Je ne comprends pas comment j'en suis arrivée là, alors je lui demande. Et toi ?
I developed, sort of developed a bit of an attraction to a new friend that I had. And then that passed, and then it just kind of, it just happened, it kind of exploded. She was taking me to some gay bars, and I remember I hadn't been there for years, and we went inside, and we were quite drunk, and we were dancing, and I saw two girls really making out on the dance floor, and immediately I was just so fucking horny, and I was just like, it never happened to me in my life with anyone. And I was like, fuck, yes. Yeah, it was really funny. It was really fun. And I ran and told Kat. I was like, Kat, this is happening to me.
Les discussions au lit sont les meilleures.
That had never ever happened to me before. Like, a really sexual reaction.
No, never.
No, I've seen people kiss numerous times, but just in that moment, I was like, I couldn't handle it. It was really overwhelming.
Quand son rire rebondit sur mes joues, sur mon ventre.
I felt horny constantly. Like, what am I gonna do with this?
Quand nos rires se mélangent comme nos sueurs, nos salives, nos mouilles, tous ces fluides dans nos odeurs et dans nos voix.
Well, excited.
Quand j'écoute ses genoux vivre contre ma cuisse.
Like my stomach was like very excited, like with butterflies.
Quand ses palpitations servent de ponctuation.
Yeah. Like it was just turning like this for like.
Quand on peut murmurer et s'exclamer au même rythme, c'est le seul moment où on peut parler la même langue. Et si on ne se comprend pas à ce moment-là, aucun dictionnaire n'y pourra rien. C'est une nouvelle phase du monde qui apparaît et on rêve de l'étendre.
Like making so much eye contact with girls in the street.
But maybe just before feeling like... too, but you just didn't
realize. No, I didn't realize. And I never even felt like I saw any dykes anywhere. And then suddenly they were everywhere. And I was just like, oh, fuck.
Tout s'est passé très vite. Tout est apparu. Un autre univers peuplé de Gwyn en jockstrap, d'arbres géants, pluie tropicale et ambiance moite dans les serres des jardins botaniques de Glasgow. Je l'espionne auditivement pendant qu'elle essaie d'imiter mes gestes. Pendant que ses yeux rêvent de se fondre dans ma peau, je capture sa voix en secret. Ça aussi, on veut l'étendre, le déverser, le pleurer de joie, tout bouleverser.
You're farting,
yes.
Oh, perfect, I had no idea. Fuck, you call me. Well done.
Et peut-être juste un lien vers Dora, qui va intervenir prochainement. Il y a une partie qui, en fait, n'était pas traduite quand même dans le texte où... L'amante, elle dit, je suis allée dans une bar Gwyn et j'ai vu deux meufs qui se roulaient des pelles. Et j'ai compris, en fait, et je suis devenue mais extra horny. Enfin, je ne sais pas le mot pour ça en français, mais que je suis devenue excitée. Et il y avait quelque chose dans l'excitation de cet espace clos oui. Qui était un peu répété pour moi dans le texte radiophonique. Et cette idée qu'il y a certains espaces littéraires ainsi que les espaces réels comme des dyke bars, comme des bars Gwyn, où on peut trouver une sorte d'émancipation, une sorte de voix au minimum pour exprimer quelque chose. Tu es d'accord? Merci Camille.
Merci Camille et Claire. On passe à Dora, Dora Jan, qui,
bonsoir.
Ouais, qui vient de faire paraître Ouverture à la française chez Emmanuel Colas.
Oui.
Alors, il se trouve que c'est un texte que moi j'avais déjà lu dans oui, une autre version oui. Qui s'appelait La Kurde des montagnes.
Oui.
Ce qu'on comprend puisque c'est une c'est, ça intervient dans le livre, c'est un moment où un Turc, je précise que tu es né en Turquie
oui.
et que tu es arrivé enfant en France, dit à la jeune femme, à la narratrice, toi tu parles comme une Kurde des montagnes. Et c'est aussi un livre qui était un petit peu plus long quand je l'ai lu, notamment avec toute une partie qui a été enlevée. Et j'aurais aimé savoir, dans ces deux ans ou trois ans, je ne sais pas, qui ont été les deux ans ou trois ans du processus éditorial, comment on renonce à un titre, comment on renonce à des parties. Est-ce que c'est un renoncement ou est-ce qu'au contraire, c'est un travail productif avec un éditeur pour aller vers le texte?
En fait, c'est pas vraiment renoncer, ça libère d'un texte qui est très, très arborescent. Finalement, j'avais énormément de choses à dire, donc je formulais, je tournais et j'avais de nombreux projets en même temps. Du coup, non, ça libère d'être dans un livre, dans l'objet livre, voilà. Donc après, disons que le travail que j'ai pu faire aussi avec Emmanuel, c'était aussi très intéressant parce que l'éditeur en fait apporte un plus que j'ai vu aussi parmi les personnes qui étaient dans le master, une sorte de qualité de lecture aussi, de sensibilité aussi. Et ce qui était intéressant aussi avec Emmanuel, c'est qu'elle connaît le turc. Donc toutes ces tournures que je peux avoir en français, que j'apprivoise tous les jours de nouveau, à chaque mot que j'emploie, en fait, Emmanuel, elle était hyper à l'aise avec ça, c'est qu'elle maîtrise bien le turc, donc j'étais très, très bien tombée. Voilà.
Et aussi, dans cette fabrique de la littérature qui nous intéresse ici, je me souviens aussi que la première fois que j'ai rencontré un texte de toi, ça n'avait strictement rien à voir. C'était un texte un peu science-fictionnel.
Oui.
Il me semble, quelque chose un peu...
On a eu beaucoup.
Ouais, et qui était ton projet d'écriture. Et puis, aujourd'hui, on a ce livre qui est... Là aussi, en fait, moi, ça a fait un peu... Mais, que je trouve très fort, et très fort à lire aujourd'hui, oui, particulièrement, oui. Parce que c'est une histoire d'immigration. C'est une histoire aussi qui raconte cet arrachement à une culture. La confrontation au père, sur laquelle on va revenir tout à l'heure, mais aussi quel est le moment où tu bascules et tu te dis en fait c'est cette histoire-là que je vais raconter. Tu savais que tu avais envie de la raconter ou est-ce que c'est des rencontres qui t'ont fait changer de projet littéraire?
Alors au moment où j'ai commencé la cure des montagnes, j'étais dans un atelier et une sorte d'envie de liberté m'a envahie et c'est un peu arrivé tout seul et finalement c'est un texte qui est resté tout au long de... c'est un des textes qui a le plus résisté à tout ce que j'ai pu produire par la suite. Et donc c'était un atelier avec Sylvain Patieu. Et ensuite, à un moment donné, j'étais sur une dystopie que j'écrivais depuis un certain temps. Et tout d'un coup, j'ai eu une sorte de pression en me disant « Allez, on y va, on raconte, on se donne le droit de raconter, l'espace. Voilà. » Donc
Mais elle venait de l'extérieur, cette pression, ou elle venait de toi ?
Est-ce que c'était une nécessité du moment, je pense. C'était à la fois extérieur et intérieur. Et Et en fait, pour moi, la littérature, elle est vraiment vivante parce que je peux la vivre au quotidien, l'espace qui m'entoure, la réalité qui m'entoure, mais aussi par rapport à ce qu'on peut ressentir du passé, des relations humaines qu'on a autour de soi. Donc, je l'ai vraiment vécu au quotidien, ce texte, en le posant.
Tu nous en fais entendre un extrait ?
Oui, alors cet extrait n'est pas directement lié à l'histoire, mais qui explique en fait tout le parcours du père et aussi d'Alevi, kurde en France. C'est une personnalité qui m'a raconté, elle est décédée par la suite. Et c'est, disons, le mythe fondateur Alevi que je pense qui n'a pas encore été traité. En tout cas, pas à mes yeux, mais voilà, c'est une version de la Bible, de l'histoire biblique, du paradis perdu. Voilà, je vous lis pas tout parce que comme ça, je vous laisse découvrir la suite. Je rêve souvent que je vole et fais le tour du monde. Je perçois l'océan à 300 mètres au-dessous de moi. Voler au-dessus du monde et apprendre à se diriger sans se heurter à un mur, à une fenêtre, à une branche de sapin nécessite une attention extrême. Si je perds de l'altitude, je dois me rééquilibrer rapidement. Je ne me suis jamais pris à un mur ou une porte dans un rêve. Mais il m'est arrivé souvent de me retrouver dans un immeuble dont je ne pouvais plus sortir, poursuivi par un monstre ayant des traits humains. Je ne trouvais aucune issue et j'étais obligée de chercher un objet pour casser une vitre et retrouver la liberté des cieux et de l'espace-temps, du vide qui entoure la Terre. L'histoire de la cité du consentement, mythe fondateur que Maryam Anna, mère spirituelle à Lévi, me raconte un jour de grand froid sur son balcon, en face du chemin de fer et des caténaires, m'emporte plus loin que dans mes rêves. Un derviche voyageur s'arrête dans une cité pour acheter du pain chaud et faire des provisions pour la route. Il entre dans la première boulangerie qu'il aperçoit. Il choisit son pain, sort sa bourse et demande le prix. Le boulanger présente ses excuses et repousse sa monnaie. Il n'accepte pas son argent. Il lui demande s'il est étranger, s'il vient de la terre. Le derviche lui explique qu'effectivement, il vient d'arriver dans cette cité, qu'il a fait un long voyage. Le boulanger lui tend le pain, puis prévient des gardes. Ceux-ci le conduisent au divan de la ville, chargé de régler les litiges entre les habitants. Le divan est quasi vide. Le derviche s'étonne de l'absence d'un palais luxueux dans une ville aussi florissante. Le pire, dans sa sagesse et sa simplicité, le reçoit aussitôt et rappelle aux gardes la consigne de la cité de prendre soin de lui, conformément à l'usage. Les gardes accompagnent le voyageur et l'aident à prendre ses marques. Pendant plusieurs semaines, le derviche festoie, reçoit le gîte et le couvert. Il rencontre des musiciens, des artistes, des peintres, des jardiniers, des éleveurs, des maçons et toutes sortes de gens qui font la fête ensemble dans les jardins, les cafés, les restaurants au bord du fleuve. Les soirées se terminent à l'aube. Il se réveille plus en forme chaque matin et plus heureux. Il découvre des paysages délicieux. La beauté règne partout. Mais à chaque fois qu'il se rend dans une boutique, aucun commerçant n'accepte son argent. Pourtant, personne ne lui refuse rien et il reçoit toujours ce dont il a besoin. Un jour, alors qu'il a décidé de poursuivre son voyage, les gardes l'aperçoivent à la citadelle et lui demandent « Étranger, es-tu satisfait de l'accueil que tu as reçu dans notre ville ? Avons-nous ton consentement ?» Il acquiesce. Les gardes s'approchent de lui et lui répètent qu'il est ici dans la cité du consentement. Il les regarde un peu confus, car il ne saisit pas leurs propos. Les gardes lui expliquent que lui aussi doit demander le consentement de la cité avant de la quitter. Il les interroge sur ce qu'il doit faire pour cela. On lui propose alors de travailler dans un métier qu'il connaît, pour recevoir ce consentement, car l'usage veut que tout soit gratuit, mais que tous participent à l'effort collectif et à la richesse de la ville par leurs moyens propres.
Alors, voilà. Je me demandais justement pourquoi tu avais choisi ce texte à lire, parce que ce texte a une fonction un peu différente dans ce livre-là. Oui, c'est le seul texte qui renvoie à une tradition, alors que à la fois les parents de la narratrice et la narratrice, au fond, rompent avec la tradition. Eux, parce qu'ils choisissent, disons, le marxisme et l'action politique, et la fille, parce qu'elle veut rompre avec ce à quoi les parents n'ont pas rompu, c'est-à-dire la tradition du mariage, la tradition qui enferme les jeunes femmes, au fond.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, au nom du progrès, et parce qu'ils ont aussi cette histoire de la cité du consentement en eux, vont s'accrocher au marxisme, au communisme, pour essayer de s'émanciper dans un pays, pour se dépasser eux-mêmes et pour s'intéresser aussi à la modernité. Et ces gens-là, finalement, quand ils sont en exil, vont à la fois oublier leur histoire traditionnelle à Lévis et aussi tout ce qui est marxisme, communisme et idéalisation qu'ils ont pu avoir dans leur jeunesse. Donc, au fur et à mesure qu'ils s'enferment dans leur communauté ou leur quotidien qui n'est pas facile, ils sont en régression quelque part. Et la narratrice va relever autant qu'elle peut les situations où elle les voit, en fait, se démener.
Et les textes et les livres sont très présents dans ton livre, alors de manière très, très
diffuse,
oui. Mais sont quand même toujours là. Et il y a plusieurs sortes de livres. Il y a les livres, effectivement, de l'idéologie.
Oui. Hein.
Il y a les livres sacrés qui sont quand même là. Et puis, il y a cette émancipation par l'écriture de cette jeune femme qui, très tôt, écrit des poèmes, d'ailleurs, à son père.
Oui.
Et est-ce que c'est un peu comme ça ? Moi, j'ai aussi, alors je le dis à chaque fois, chaque soir pratiquement, il y a aussi dans ce livre une sorte de roman initiatique. Et l'initiation, c'est quand même l'écriture qui permet de s'affranchir de ce poids familial, quoi. C'est un peu tarabiscoté comme question, non ?
Oui, c'est intéressant, mais je pense pas que ce soit lié en fait les deux questions. L'écriture n'est pas c'est un projet en soi qu'elle porte en elle et c'est un lien qu'elle a avec la vie finalement et c'est une manière aussi de s'exprimer. On peut dire oui, on peut parler d'émancipation si on fait le lien avec le fait qu'elle peut justement formuler des choses qu'elle ne formule pas autrement dans ce milieu-là parce qu'on ne formule pratiquement pas grand-chose, enfin voilà.
Oui, et puis je me souviens que dans une version plus étoffée du livre, il y avait l'émancipation ratée par le mariage, puisque le mariage est une manière pour Zinée, la narratrice, enfin le personnage de ce livre, de s'émanciper de son père, au fond, et de s'opposer. En fait, c'est une rupture majeure. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, elle ne voit plus son père jusqu'à ce qu'elle... Bon, je ne dis pas la fin, donc, mais c'est quand même l'objet du livre, c'est ça. Hein, c'est la première scène, elle va devant une tour de cité pour essayer de voir son père. Et donc, c'est quand même ce traumatisme-là qui fait le cœur du livre. Et le mariage pourrait apparaître comme une émancipation. Il ne l'est pas. Et l'émancipation vient du moment où...
Elle se confronte à la situation réelle. Hein. Mmh. Oui. En fait, ce qui m'a le plus intéressée dans ce travail que j'ai effectué, qui était donc très vivant, c'est de sentir à quel point cette histoire à Lévis, cette tradition était ancrée en elle, au point où finalement l'émancipation qu'elle croyait réelle ne l'était pas, donc la fiction et la réalité qu'elle s'était forgée dans sa tête finalement se dédoublait quelque part. Le mariage était l'émancipation jusqu'au jour où elle se rend compte qu'elle n'aime pas finalement cette personne. C'est une redécouverte en permanence de soi finalement. On revient à la question de l'identité multiple, diffuse. Enfin, on retrouve cette identité qui est jamais vraiment ancrée, finalement, flottante.
Tout à l'heure, tu as dit que ton éditrice était l'éditrice parfaitement appropriée, puisqu'elle connaît le turc et qu'elle pouvait te... Mais est-ce que tu es encore, toi, puisque tu es quand même arrivée assez tôt en France, est-ce que tu es encore face à cet étrangement linguistique, c'est-à-dire est-ce que tu considères le français comme une langue étrangère sur laquelle tu travailles. Vous étiez dans la même promotion avec Claire, oui. Hein, d'ailleurs, qui elle exploite complètement ce passage d'une langue à l'autre, hein, du français à l'anglais. Est-ce que tu as toujours l'impression d'être une étrangère en français quand tu écris ou pas?
Disons que je redécouvre à chaque fois, je me réapproprie toujours avec un certain plaisir la langue, mais je l'ai aussi en turc en fait, j'ai pas que en français.
Et est-ce que tu écris en turc?
J'ai expérimenté plus avant le français et je suis plus à l'aise maintenant avec le master en fait.
Oui, c'est-à-dire les deux années dans le master t'ont fait basculer.
Oui. La sensibilité a changé aussi.
Et est-ce que tu as une écriture aussi en turc, quelle qu'elle soit, ou est-ce que c'est vraiment deux domaines séparés?
C'est complètement séparé, c'est pas du tout dans le même style, et je découvre à chaque fois des nouvelles façons de m'imposer les langues, en fait.
Il y a la langue fantôme aussi dans le livre, qui est la langue kurde.
La langue kurde que j'ai entendue quand j'étais très petite et qui m'accompagne aussi dans les chansons actuelles. Et le rythme aussi à Lévis, parce qu'on a une musique qui est très, disons, spirituelle ou religieuse. Et un peu à la façon des troubadours, on a l'accompagnement avec le saz. Donc moi, j'ai toujours écouté cette musique qui fait que finalement, je pense qu'il y a aussi un fond à Lévis musical.
C'est un peu ce que tu avais voulu peut-être exploiter. Tu avais fait une lecture à la Maison de la Poésie.
Exactement, oui.
Tu pourrais nous parler de ça, parce que c'était vraiment très étonnant.
C'était justement demain, tu vas recevoir des cabales.
Oui.
Et c'est que j'ai écrit un texte sur mai 68. Et finalement, je me suis dit, autant écrire un peu comme je l'ai entendu souvent en turc, par des rimes, des rythmes. Et j'ai essayé de chanter pour une fois parce que j'ai tellement écouté qu'à un moment, on a envie de basculer vers autre chose. Et donc, je suis montée sur scène et comme il m'a encouragé des cabales.
Qu'on reçoit demain. Avec qui tu as travaillé. Avec
et donc,
les
j'ai fait a cappella pour le plaisir, finalement, un texte qui s'appelle « Les enragés ».
Et c'est quelque chose que tu aimerais exploiter encore ou c'était vraiment lié à ce projet-là?
Je pourrais l'exploiter, mais il me faudrait des musiciens peut-être. Voilà.
Alors peut-être une question pour finir. Tu as choisi un nom d'emprunt pour ce livre-là. Je ne vais pas rentrer dans les raisons qui t'ont amené à ça. Tu as changé de titre par rapport à Messap aussi. Qu'est-ce que ça te fait de voir ce nom-là sur une couverture et qu'est-ce que ça te fait donc pour ce premier livre? Est-ce que être auteur, ça change quelque chose ou c'est vraiment une transformation totalement impersonnelle, je dirais?
Disons que pour l'instant, c'est un plaisir parce que j'ai un peu le sentiment que j'ai eu quand j'ai été éditée, c'est de retrouver une certaine dignité en fait, avec une sorte de réappropriation de ce que j'ai pu essayer de forger quand j'étais vraiment jeune. Et Dora Jan, en fait, je suis très à l'aise avec ce nom de plume. Finalement, c'est plus un nom de plume parce que c'est une tradition qui a toujours existé chez les Kurdes et les Ottomans. On a toujours pris un nom d'emprunt comme ça. Et en fait, Jan étant asexuée, pour moi, c'était important de l'utiliser parce que ça me renvoie aux Alevis. À la religion ou la philosophie à Lévis. Et Dora, j'ai toujours utilisé ce prénom parce que mes amis me l'ont utilisé ça, même parmi mes amis kurdes, on m'a appelé par Dora. Voilà.
Claire, tu as un micro, Claire? Tu as...
Oui, ouais. Oui, j'ai un micro. Oui, et c'est juste c'est un plaisir total de voir le livre terminé comme ça. Et c'est vrai que je me demande s'il n'y a pas quelque chose dans cette version finale avec le nom Dora. Ça m'a fait penser bien sûr à Dora de Freud et cette question de personne qui lutte contre certaines circonstances imposées, mais avec toujours une capacité très subversive de trouver une façon par la narration de sortir par les voies qu'on n'a pas vues avant, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as trouvé ça un peu dans l'écriture de ce livre, que tu as trouvé une langue un peu subversion narrative?
La subversion, je l'ai... C'est à toi. J'ai toujours eu quelque part... Dans l'écriture, en fait, j'ai pas eu l'impression d'être dans la subversion, quand j'ai écrit ce livre, j'ai pas du tout senti de subversion parce que d'habitude j'écris des textes beaucoup plus, beaucoup plus qui racontent la violence ou des blessures parce que c'est un environnement qui est quand même assez chargé, très lourd. Et la subversion, ça s'est pas autant manifesté que ce que j'aurais voulu finalement. Mais elle est par petites touches pour garder ce que tu dis, détourner par une voie détournée la nature vraiment de ce que je veux faire passer.
Voilà. C'est toujours là.
Oui.
Voilà, on arrive au bout de la troisième émission de Radio Brouha. On se retrouvera demain avec Ded Kabal, avec lequel tu as travaillé d'ailleurs, Dora, et Guillaume Sorensen, qui sort du Master Création littéraire du Havre, et évidemment des membres du collectif RERQ, je ne sais plus qui exactement, mais je crois qu'il y aura du monde demain.
Rebecca Chaillon et
Tainzver. Et comme ces deux livres sont tenus par une même chose, c'est-à-dire c'est quand même deux jeunes femmes qui sont dans un contexte assez hostile, et qui, comme des chrysalides, vont s'ouvrir au monde par l'écriture. On va finir par un morceau qui s'appelle Papillon, Butterfly, de Léonie Pernet. Voilà. À demain.